Les podcasts de l'Institut de France.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je ne suis pas astronome. J'ai bien essayé de l'être autrefois, j'avais 15 ans et comme beaucoup d'adolescents fascinés par le ciel, j'avais entrepris de construire un télescope moi-même. Ce fut un désastre complet et j'ai très vite abandonné et j'ai compris que je ne serais jamais un expérimentateur en sciences. Beaucoup plus tard, j'ai tenté à nouveau d'observer le ciel directement, mais cette fois sans ambition excessive. J'ai acheté un petit télescope très modeste avec un miroir d'une dizaine de centimètres de diamètre. Je l'ai pointé vers Saturne dès le premier soir. Et là, j'ai été saisi. Bien sûr, j'avais déjà vu des images de Saturne, mais cette fois, c'était différent, ce n'était pas une image. Je voyais de mes yeux, certes derrière un télescope. À cet instant, je me suis retrouvé dans la situation de Galilée il y a plus de 4 siècles, avec une différence importante. Moi, je savais à quoi m'attendre. En 1610, Galilée tournait vers le ciel une lunette très imparfaite. Il avait déjà fait des découvertes extraordinaires, les montagnes sur la Lune ou les satellites de Jupiter. Mais ce qu'il voit ne ressemble à rien de connu. Saturne ne lui apparaît pas comme un disque isolé, mais comme un objet étrange, accompagné de deux sortes d'appendices. Il parle de deux compagnons placés de part et d'autre du globe. « Lorsque j'observe Saturne, écrit-il, l'étoile centrale paraît la plus grande et deux autres semblent la toucher, situées l'une à l'Orient et l'autre à l'Occident. Ce sont comme deux serviteurs qui aident le vieux Saturne à faire son chemin et restent toujours à ses côtés. » Quelques années plus tard, ces appendices disparaissent complètement. Saturne redevient une sphère simple. Galilée est profondément troublé. On a souvent résumé cette situation d'une manière frappante, comme si Saturne avait dévoré ses enfants. Dans la mythologie romaine, Saturne est un dieu ancien lié au temps. C'est la version latine du dieu grec Chronos. Il reçoit une prophétie, l'un de ses enfants le renversera. Alors il les dévore un à un. Mais cette tentative est vaine, l'un d'eux lui échappe, Jupiter, et la prophétie se réalise. Depuis l'Antiquité, Saturne est ainsi devenu une figure du temps qui consomme tout. Galilée avait vu juste, il ne s'était pas trompé dans l'observation, mais il ne comprenait pas ce qu'il voyait. C'est Christian Huygens, dans les années 1650, qui propose une idée décisive. Plutôt que de s'attacher aux apparences changeantes, il cherche une structure simple qui puisse expliquer tout à la fois. Et il avance une hypothèse audacieuse. Saturne est entouré d'un anneau mince, plat, incliné et séparé de la planète. Huygens ne voit pas mieux que Galilée, ses instruments sont meilleurs, mais encore très limités. Ce qui change, ce n'est pas seulement la précision de l'observation, c'est la manière de penser. Il dissimula sa découverte « Annulo cingitur denui nusquam coherente ad eclipticam inclinato ». En français, il est entouré d'un anneau léger, n'adhérant à l'astre en aucun point et incliné sur l'écliptique. Quelques années plus tard, Giovanni Domenico Cassini, installé à l'Observatoire de Paris, affine encore cette vision. Il découvre que l'anneau n'est pas uniforme. Il est traversé par une division sombre qui le sépare en deux parties distinctes. Cette séparation, qu'on appelle aujourd'hui la division de Cassini, révèle que l'objet est plus complexe qu'on ne le pensait. La partie intérieure est, disait-il, fort claire, et l'extérieur un peu obscur, la différence de teinte étant celle de l'argent mat à l'argent bruni. Au XIXe siècle, l'astronome et écrivain Camille Flammarion écrit dans son Astronomie populaire « Cet aspect des anneaux de Saturne, vu surtout aux époques de leur plus grande largeur apparente, est merveilleux. Et on ne peut s'empêcher d'être saisi d'une certaine émotion lorsqu'on voit arriver cet étonnant cortège dans le champ d'une lunette astronomique. Les anneaux de Saturne sont visibles, mais ils ne sont pas immédiatement compréhensibles. À partir du XVIIIe siècle, la question change de nature. Il ne s'agit plus seulement de décrire les anneaux de Saturne, ni même d'en comprendre la forme. Il s'agit de savoir de quoi ils sont faits. Pendant longtemps, on imagine un anneau solide ou peut-être fluide tournant autour de la planète. L'image est simple, presque intuitive, mais elle pose un problème redoutable, celui de la stabilité. Comment un tel objet pourrait-il rester en place ? Au milieu du 19e siècle, un jeune physicien écossais, James Clerk Maxwell, s'attaque à cette question. Son raisonnement est rigoureux et son résultat est surprenant. Il montre qu'un anneau solide serait instable. Les forces gravitationnelles exercées par Saturne le déformeraient irrémédiablement. Une petite irrégularité suffirait à le faire osciller, puis à le disloquer. Un anneau fluide ne résout pas le problème. Là encore, les perturbations s'amplifieraient. La conclusion de Maxwell est radicale. Les anneaux ne sont ni solides ni liquides. Ils sont constitués d'une multitude de petites particules indépendantes, chacune suivant sa propre orbite autour de Saturne. Les plus proches de la planète font un tour en quelques heures, parfois 5 ou 6. Les plus éloignés mettent presque le double. Autrement dit, l'anneau ne tourne pas comme un disque solide, il se déforme en permanence. Et c'est précisément cette différence de vitesse qui rend possible toute sa structure. C'est un renversement complet de perspective. Ce qui nous apparaît comme un objet continu, un disque parfaitement lisse, est en réalité une multitude, une sorte de nuage organisé. Connaître la nature des anneaux ne suffit pas, car lorsqu'on observe les anneaux de Saturne en détail, et les images modernes nous le permettent, on découvre qu'ils ne sont pas uniformes, ils sont parcourus de bandes, de stries, de lacunes très nettes. La plus célèbre est la division de Cassini, mais elle n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. D'où viennent ces structures ? Elles ne sont pas dues au hasard, elles sont liées à un phénomène subtil, les résonances gravitationnelles. Imaginons une particule dans les anneaux. Elle tourne autour de Saturne avec une certaine période. Et considérons maintenant l'une des lunes de Saturne, par exemple Mimas. Si leurs mouvements sont accordés d'une certaine manière, alors une situation particulière se produit. À intervalles réguliers, la particule et la lune, Mimas, se retrouvent dans la même configuration. À chaque passage, la lune exerce une petite perturbation gravitationnelle, très faible, presque imperceptible, mais toujours dans le même sens. Et ces petites perturbations, répétées un grand nombre de fois, finissent par s'accumuler. C'est un phénomène bien connu en physique. Une excitation périodique peut produire un effet considérable si elle est en résonance avec le système. Certaines orbites deviennent instables et finissent par se vider et apparaissent alors ces lacunes, ces divisions, comme si une forme d'arithmétique venait s'inscrire dans les anneaux. Notre vision des anneaux de Saturne a profondément changé au cours des dernières décennies. Avec les sondes spatiales, et en particulier la mission Cassini-Huygens, nous avons pu les observer de près, presque de l'intérieur. Et ce qu'on découvre dépasse largement l'image simple d'un anneau régulier. Les anneaux sont parcourus de structures extrêmement fines, des bandes étroites, des ondulations, des sortes de vagues qui se propagent dans la matière. On y voit des sillons creusés par de petites lunes, comme des traces laissées par un bateau à la surface de l'eau. Certaines de ces lunes, invisibles depuis la Terre, agissent comme de véritables sculpteurs, ouvrant des lacunes, maintenant des bords nets, organisant la matière. Ce monde est en mouvement, il évolue en permanence sous l'effet des interactions gravitationnelles, des collisions entre particules, des résonances. Et puis, il y a une dernière question. Depuis quand ces anneaux existent-ils ? Pendant longtemps, on a pensé qu'ils étaient aussi anciens que Saturne elle-même, c'est-à-dire vieux de plusieurs milliards d'années. Mais des résultats récents suggèrent qu'ils pourraient être beaucoup plus jeunes, peut-être quelques centaines de millions d'années seulement. Peut-être sont-ils nés de la destruction d'une lune, disloqués par des forces de marée, et surtout, ils ne dureront pas éternellement. Les particules des anneaux tombent lentement vers la planète. On parle parfois de pluie d'anneaux. Autrement dit, ce que nous voyons aujourd'hui n'est peut-être qu'un phénomène transitoire. Dans le roman 2001, L'Odyssée de l'espace, Arthur Clarke ne place pas l'action près de Jupiter comme dans le film, mais près de Saturne. C'est là, au voisinage de ces anneaux, qu'apparaît une structure mystérieuse, une sorte de porte vers un autre univers. Ce choix n'est sans doute pas un hasard. Saturne, avec ses anneaux, est déjà une planète étrange, presque irréelle, et Clarke en fait un lieu où le monde connu s'arrête et où autre chose commence.
Il est morne, il est taciturne, il préside aux choses du temps. Il porte un joli nom, Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant. Il porte un joli nom, Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant.
Vous avez écouté des extraits de Glassworks, de Philip Glass, de Spiegel in Spiegel, de Arvo Pärt, de An Ending, de Brian Eno, et de Saturne, de Georges Brassens.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.